Salut Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Difficile de ne pas en parler, même si elle n'est pas encore chez nous. Le sénateur Gilbert Favron, entendu sur Colline, a pris la parole pour alerter la ministre de l'Agriculture sur la situation sanitaire explosive dans laquelle se trouve le monde agricole. On parle de la DNC.
C'est du coup une maladie virale qui touche les bovins. Au début, cette dermatose, elle a été sur le continent africain. Et ensuite, elle a fait éruption en Europe en 2014 déjà. Et ensuite, elle a provoqué une vaste épizootie dans les Balkans en 2016-2017. Est repartie en Asie en 2019 et après quelques années d'accalmie, elle revient en Europe en juin 2025. Donc Sardaigne, Lombardie et puis finalement en France. Et en France, vous l'avez entendu, c'est Savoie, Haute-Savoie qui ont été touchés fin juin. Puis quatre autres départements de l'Est de la France, l'Ain, le Rhône, le Jura et le Doubs. Et ensuite le Sud-Ouest en octobre.
Alors est-ce que c'est une maladie d'abord dangereuse ?
Alors dangereuse, elle n'est pas transmissible à l'homme tout de suite, faut le dire. Mais elle est dangereuse pour les bovins. C'est une maladie hautement contagieuse. Et les bêtes contaminées, elles présentent de la fièvre. Comme beaucoup de maladies, des chutes de lactation par exemple, mais également l'apparition de ces fameuses nodules sur la peau et les muqueuses qui ont donné du coup ce nom à la maladie. Au niveau mortalité, on estime que 10% des bêtes contaminées peuvent en mourir et on recense des séquelles ensuite telles que les pertes de fœtus, la stérilité et l'amaigrissement des bêtes. Voilà. Donc la maladie a donc un impact clairement sur le bien-être animal, mais aussi sur l'élevage avec des pertes directes et notamment des pertes économiques.
Autre question importante, comment est-elle transmise ?
Voilà, soyons précis. Ça c'est une souche virale qui circule actuellement en Europe et est essentiellement transmise par des petites mouches qu'on appelle les stomachs. Il y a aussi des thons et des tiques peut-être dont le rôle est encore mal évalué pour cela. Ensuite, par exemple, après un repas de sang sur un animal, ces insectes peuvent conserver le virus dans leur bouche pour plusieurs heures et réinfecter ensuite un autre animal. Ça agit comme une seringue contaminée entre deux repas. Donc il s'agit bien d'une contamination mécanique et ponctuelle, à l'inverse d'autres maladies dont on a déjà parlé ici, et vous connaissez par exemple la FCO, où là c'est d'autres insectes qui sont infectés et régurgitent leur virus via leur salive, t'es d'accord, mais tout au long de leur vie, contrairement du coup au stomachs et à cette fameuse DNC.
FCO, la fièvre catarrhale ovine.
Voilà. Ensuite, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on arrive en hiver, mais la hausse des températures provoquée par le réchauffement climatique, ça permet du coup à ces fameux stomachs de se maintenir presque toute l'année en ce moment. Et ensuite, ils se réfugient dans les bâtiments où hébergent les bêtes pendant l'hiver. Et ça permet une transmission presque toute l'année aujourd'hui. Et les stomachs, eux, sont résistants à la plupart des insecticides connus. Et du coup, la manière la plus efficace de se débarrasser d'eux, ça consiste à relâcher régulièrement dans les fermes des petites guêpes parasitoïdes qui ne piquent pas les humains, soyons sereins, mais elles pondent opportunément leur œuf dans les pupes de stomachs. Et ainsi que des acariens, par exemple prédateurs, qui eux vont manger les œufs et les larves de ces mouches.
Des traitements existent-ils face à cette maladie ?
Alors, virus, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre la DNC, mais les vaccins dont vous avez entendu parler sont disponibles. Alors, ces vaccins, sont produits par un labo sud-africain qu'on appelle OBP, et qui a démontré une très grande efficacité lors de sa fameuse épizootie qui a touché plusieurs pays des Balkans en 2016-2017. Efficacité à plus de 85%. Et c'est ce vaccin qui est fourni par le stock d'urgence de l'Union européenne et qui est distribué par l'État ensuite dans les zones réglementées et vaccinales établies autour des foyers français. Donc Haute-Savoie et Savoie, où le virus est arrivé dès juin. Et la couverture vaccinale est aujourd'hui désormais très haute dans ces départements, environ 90%. Mais l'enjeu est désormais de vacciner au plus vite les départements du Sud-Ouest. Et ça, c'est bien selon le gouvernement.
Voilà. Alors pourquoi ne pas vacciner tout le cheptel français?
Alors voilà, la première raison, on peut dire qu'elle est sanitaire. La vaccination ne garantit jamais de mettre fin à la circulation du virus à 100%. Et le risque de le voir circuler à bas bruit, entre guillemets, et de s'installer durablement sur le territoire français. Or, l'objectif, c'est bien l'éradication du virus le plus vite possible pour éviter qu'il s'installe en France, mais aussi en Europe. La deuxième raison, et sans doute la principale, elle est commerciale. Les zones où la vaccination est obligatoire perdent leur statut indemne de la maladie. Et derrière ça, pensez-y, la France, faut quand même le savoir, c'est le premier exportateur de bovins vivants au monde. Et derrière, il y a tout le lobbying de la viande qui fait force face au gouvernement pour pas vacciner justement toute la France, pour ne pas perdre ce statut indemne. Puisque si vous voulez vendre vos bovins à l'extérieur, exporter les bovins vivants, les autres pays demandent à ce que ce statut indemne soit conservé.
Comme un label
Comme un label. Et ça, c'est très clairement du coup une des plus grandes raisons. Et là, c'est vraiment du lobbying auprès de la ministre de l'Agriculture et notamment avec le groupe Bigard qui est aujourd'hui le premier groupe de valorisation bovine du coup en France, un groupe privé. Et donc pour retrouver ce statut indemne, si on vaccinait, il y a besoin de 14 mois pour regagner ce statut. Et durant cette période, ces zones sont soumises à des exigences sanitaires supplémentaires pour les échanges commerciaux, voire un arrêt total des exportations suivant les pays destinataires. Et ça, c'est bien ce que la Fédération bovine ne veut pas. Une situation que la filière veut éviter, d'étendre à l'ensemble du territoire. Et enfin, il y a une région assez pratique, c'est qu'il faudra vacciner 17 millions de bêtes. C'est un vrai défi logistique de taille qui prendrait des mois. Et en reculant d'autant plus, en fait, la récupération du statut indemne.
Alors pourquoi l'abattage systématique des élevages contaminés est-il imposé aujourd'hui? Alors, et c'est ce qui fait aussi la différence entre les uns et les autres.
Voilà, entre les syndicats, voilà. Alors ça, l'abattage systématique, hein, donc l'administration, c'est ce qu'elle appelle le dépeuplement, entre guillemets. Donc ça, en fait, c'est dans le cadre de la loi santé animale qui encadre l'action sanitaire des éleveurs européens depuis 2021. Donc c'est très carré, hein, ça c'est des, j'ai été chercher un peu les textes. En fait, la dermatose, elle est classée en catégorie A, comme une maladie, ce qu'on appelle, enfin, l'Europe appelle ça à éradication immédiate. Alors ça, c'est au même titre que la fièvre aphteuse, ou pour les volailles, que vous connaissez bien, l'influenza aviaire. Et ensuite, la DNC n'étant pas présente en fait en Europe, tous les moyens sont permis pour empêcher qu'elle s'installe sur le territoire. Et la France, comme elle veut éviter de perdre son fameux statut réglementaire indemne, comme on a dit, cette maladie, elle permet d'avoir des échanges internationaux sans entrave.
Et pour éradiquer, Ludo, il faudrait aussi que tout le monde joue le jeu.
Oui, tout le monde, c'est-à-dire tous les éleveurs et tous les marchands de bêtes, tous ceux qui tournent autour en fait de ce monde-là. C'est vrai qu'il y a aussi, il faut le dire, hein, parfois, on ne joue pas le jeu dans le monde agricole et on transporte des animaux de manière illégale entre les zones réglementées et des zones saines. Et du coup, les stomachs, les animaux contaminés, en contaminent du coup une nouvelle zone. C'est un peu ce qui s'est passé de manière, selon l'enquête, en fait, de manière induite, je dirais, entre les Pyrénées-Orientales et les Haute-Savoie et Savoie.
Et pourquoi ne pas abattre que les bêtes contaminées?
Alors oui, c'est ce que demandent d'ailleurs la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale, les deux syndicats agricoles qui représentent ensemble quand même aujourd'hui la moitié de la profession et qui contestent cette stratégie d'abattage systématique. Et elles continuent d'ailleurs de revendiquer l'euthanasie des animaux malades. En fait, ces syndicats, ils poussent le gouvernement à agir au niveau européen pour un changement justement de cette classification de la catégorie A. Mais un certain nombre d'animaux, en fait, ne présentent pas de symptômes qui permettent d'identifier clairement la maladie. Et ça, c'est le cas de certaines races rustiques, par exemple, élevées dans les Pyrénées orientales. Et ensuite, il a quand même été démontré en 2023 que même les bêtes asymptomatiques peuvent transmettre la maladie par l'intermédiaire des stomachs. Donc, selon l'ordre des vétérinaires, si l'on épargne les animaux sans symptômes, on ne va jamais arrêter le cycle.
Et pourquoi certains animaux vaccinés sont malgré tout abattus?
Et oui, parce que ça existe aussi, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, le délai pour que le vaccin devienne pleinement efficace est de 21 jours après l'unique injection. Or, le temps d'incubation, c'est-à-dire le délai entre le moment où le virus pénètre dans le corps de l'animal et celui où les symptômes surviennent, en fait, peut aller jusqu'à 28 jours. Il y a des animaux, donc, qui peuvent être infectés, puis vaccinés et développer malgré tout la maladie et la transmettre donc ensuite via les stomachs, toujours ces fameux stomachs présents dans les élevages.
Pas simple hein, de s'y retrouver.
Non, et du coup,
c'est un peu un pari sur l'avenir. Hein.
Et ben voilà. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que contrairement à la grippe aviaire, les éleveurs font face à cet abattage systématique de leur cheptel reproducteur avec des vaches qui sont là depuis plusieurs années. Il ne s'agit pas de poulets qui sont là que 120 jours. Donc là, il y a un vrai patrimoine génétique et affectif.
Et oui, et après, il faut le reconstruire.
Et ouais, c'est hyper compliqué de réadapter son cheptel à sa ferme.
Donc, merci, Ludo.
Et puis bonne fête à tous, malgré tout.
Bonne fête à tous et en particulier aux agriculteurs.
Yes, ciao.